RMC Running.
Les amis, bonjour, c'est Aurélien Thiersin pour RMC Running. Bienvenue à Tokyo, encore une journée dans les coulisses des championnats du monde. Ça fait 3 jours que ça a commencé et on s'est encore régalé, notamment la finale du 3000 mètres steeple masculine. Eh bien, il y a eu un petit goût de Jimmy Gressier, mais cette fois, c'est le néo-zélandais Jordi Beamish qui est passé devant la légende Soufiane El Bakkali, le marocain, qui s'est fait dépasser dans la dernière ligne droite. Et Beamish, en plus, c'est le gars qui, en série, est tombé, s'est fait marcher dessus, s'est pris une pointe dans le menton, et il s'est relevé, il s'est qualifié en finale, et il devient champion du monde devant le marocain El Bakkali, le kényan Serem, l'éthiopien Firewu, quatrième, que des Africains derrière. Donc encore, finalement, des écoles différentes de celles africaines pour gagner des disciplines qui, normalement, leur étaient réservées. Donc on a eu Jimmy Gressier sur le 10 000 mètres, on a désormais Jordi Beamish sur le 3000 mètres steeple. Et évidemment, bon, ce qui s'est passé, ça vous concerne pas beaucoup, vous les coureurs, les runners, mais Duplantis, on est obligé d'en parler, 6m30, deuxième barre mythique qu'il efface après 6m20, 6m30. On a échangé avec les Français, les trois Français finalistes, Renaud Lavilloni d'ailleurs, qui devient le plus vieux finaliste de l'histoire, à bientôt 39 ans, il termine 8e. On a eu également Thibaut Collet, 5e avec 5m90, il était dégoûté parce que 5m90, il y a 5-6 ans, t'étais sur le podium. Et aujourd'hui, ça suffit pas parce qu'on a eu le plus grand concours de l'histoire, 7 perchistes à plus de 5,90. Et Ethan Cormon, lui, pour sa première finale internationale, a terminé 11e avec simplement une barre à 5,55 de passé. Mais voilà, Duplantis, qui a encore passé 6m30, 14e record du monde effacé. Et on a discuté avec les trois Français qui, selon eux, voient une limite quand même à un moment donné entre 6,32 et 6,35 parce que là, chaque centimètre va commencer à compter double ou triple. Ce qui va nous intéresser quand même, ce sont les 110 mètres haies. On a la chance d'avoir trois Français qualifiés en demi-finale et en finale. On va se régaler, c'est une des courses les plus impressionnantes, les plus passionnantes à vivre. Et donc on a Sacha Zoya, alors qu'un petit peu touché, et on va entendre en longueur, en très grande longueur, son entraîneur, Ladji Doucouré, lui aussi légende du 110 mètres haies, champion du monde en 2005. Donc on a Sacha Zoya, Willem Belossian et Juste Kouaou Maté, tous les trois qualifiés en demi-finale. Et on est allé voir Ladji Doucouré à côté de son hôtel, le Shinagawa Prince Hotel, la Shinagawa Tower. C'est l'hôtel où il y a le monde entier et on va échanger en longueur avec Ladji Doucouré.
Salut, salut, ça va?
Bon, ça va et toi? Tout va bien? T'es à l'hôtel donc où il y a le monde entier, le Shinagawa Prince Tower. Est-ce que toi déjà t'as bien pris tes marques dans cet hôtel gigantesque?
Franchement, je sais pas parce que ça fait quand même presque une semaine que je suis là-bas et je continue à me perdre. C'est un délire. Franchement, c'est trop, trop énorme.
T'as déjà vu ça, toutes les délégations, sauf le Japon, dans le même hôtel?
Non, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on, juste avec le regard, on se rend compte qu'on est tous perdus. Donc, ça, c'est rigolo, quoi. On joue à un grand escape game. C'est où la bouffe, c'est à gauche, à droite, c'est quel étage? T'as le badge, pas le badge? Attends, l'ascenseur, c'est un combat. Ouais, c'est marrant là-dessus, mais à un moment, ça commence à.
Parce que c'est marrant sur le papier, mais en vrai,
c'est
quand
la même
tu dois.
Avec les transports! C'est la même chose. Donc,
mais en vrai, tu perds du temps ou pas là quand tu cherches?
Je te jure que tu perds de l'énergie. Ouais, tu perds de l'énergie. En fait, faut qu'à chaque fois tu t'anticipes un départ. Si tu veux, le truc classique, c'est tu sais que tu pars de ta chambre à telle heure, tu prends la navette à telle heure et tu pars. T'es même pas sûr de partir à l'heure avec la navette parce que il n'y a pas 10 000 choix. Il y a une navette pour 3 000 personnes. Et des fois, ils te mettent trois navettes. Et si tu ne rentres pas dans les trois premières navettes, bah, tu attends la navette de l'heure d'après. Et c'est ce qui se passe tous les jours. Et donc, du coup, ça met un peu les gens dans les nerfs. Mais ça fait partie de la compétition aussi. Il faut apprendre à s'adapter. La bouffe, c'est pareil. Ça ferme à 10h. Tu viens à 10h. À 10h. À 10h, une, ils baissent la lumière comme si on sortait de boîte, je te jure. Ils sortent, tout le monde sort. Allez, ils baissent la lumière et puis on sort. Donc, si tu veux, c'est. Pour les plus anciens, et ça va, il faut s'adapter. Mais les nouveaux, c'est vrai qu'ils prennent des petites claques et il faut vite rentrer en lice parce que ceux qui attendent, ils commencent à péter un plomb, on va dire.
Et le fait de voir aussi les adversaires, certains sont des potes, certains peut-être un petit peu moins, ils sont avec vous. Ça, c'est un truc à prendre en compte ou l'habitude quand même?
Non, il faut prendre en compte parce que si tu veux, on a pour habitude de ne pas forcément voir les proches, ceux qui sont à l'hôtel. Et là, en fait, tout est mélangé, donc... ça peut être un avantage pour beaucoup. Après, il faut pas trop être friendly parce que la compétition elle avance et puis il faut être dans ses temps. Tu sais, ça passe vite. Hein. Il suffit que tu passes à côté juste parce qu'en fait, t'étais pas mis dedans et malheureusement, C'est un peu chiant si t'es dans ce cas-là.
Et tu l'as un petit peu abordé, mais le stade d'échauffement, il est loin. Il faut prendre le bus entre les deux. Ça, c'est une galère aussi pour tous les athlètes, pour vous aussi.
Ouais, c'est voilà, tout le monde est logé à la même enseigne, donc c'est radical pour tout le monde. Maintenant, il faut savoir anticiper tous ces petits couacs ou ces nouveautés-là qui feront que, par exemple, moi j'ai l'habitude d'être au départ à la 3ème EA dans chaque compétition. Bah, là, il va falloir s'adapter parce que je risque de ne pas arriver à l'heure et pas être là et donner les dernières indications. Mais ça, c'est pour tout le monde. Et tous les coachs, on est en train de gueuler parce que comment on fait pour accompagner les athlètes jusqu'au bout? Les sauteurs en longueur, ils sont là. Les sauteurs à hauteur, ils sont là. Les coachs des perchistes, c'est la même chose. Demi-fond, ils sont un peu plus loin, donc c'est assez différent. Mais nous, les hurdlers ou sprinteurs en ligne droite, on est en train de gueuler en se disant qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur le terrain d'échauffement ou on a le temps d'arriver? Je pense que la plupart n'ont pas le temps d'arriver et il faut commencer à anticiper les petites réactions des athlètes et faire en sorte qu'ils ne soient pas surpris. Donc on leur parle déjà, les coureurs de 100 mètres sont déjà dedans, mais on parle déjà en train de leur dire on ne sera pas là à leur dire calme-toi ou tout va bien, le départ est génial ou lève un peu plus les fesses, ce genre d'indication.
Et bon, alors, donc, on le rappelle, t'es le coach de Sacha, Zoya.
Ouais, de temps en temps.
Alors, bon, on en parlait, 13-06, c'est son season best et son record perso. Mais on va peut-être pas s'appuyer que là-dessus, parce que sa saison, c'est pas que 13-06.
Ouais, c'est pas que ça, parce qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est toujours relever son niveau de course pour pouvoir en bénéficier en grand championnat. Et moi, je pars toujours de ce principe-là, c'est si jamais il y a une attaque, on va dire une attaque, tu peux lancer une attaque d'une course aux alentours de 13-0, il faut que ton corps soit capable de le réaliser. Et c'est pour ça que ton record il doit être élevé. Toi, si quelqu'un court en moins de 13 secondes, il faut que ton corps soit capable de courir en moins de 13 secondes et que tu ne le découvres pas le jour J. Il faut que tu t'habitues à ça et ainsi de suite pour pouvoir gérer des tours. Et voilà. Mais ça fait quelques mois qu'il n'a pas couru assez rapidement. Et si tu veux, c'est assez... pas dramatique, mais ça c'est gênant, on va dire. Maintenant, c'est un championnat, tout peut arriver, il faut passer les tours.
Tu l'imagines, s'il fait une belle course en sortant en série, c'est quoi les objectifs quand c'est comme ça en fait? C'est d'abord préserver le corps ou c'est quand même tenter quelque chose?
Ouais, d'abord c'est de préserver le corps. À partir du moment où normalement t'as pas de risque de blessure ou de sur-blessure, tu peux y aller et que c'est ok pour y aller, on y va et il faut passer les tours. Si tu fais 13-06 en série et qu'en demi-finale t'es pas capable de les refaire, ça sert à rien. Si tu fais 13-60 en demi-finale, on va dire t'es passé à côté. L'idée, c'est de surélever et relever son niveau au fur et à mesure des tours. Donc voilà. Donc là, on part dans cet état d'esprit, c'est de passer les tours le plus possible et pouvoir faire un gros bilan à la fin de ce championnat en se disant sur quoi on repart pour l'année prochaine. Parce que l'objectif principal, c'est quand même Los Angeles. Mais Tokyo est une grande étape. Et si sur cette étape, comme on a pu le faire juste après les Jeux de Paris, c'est de faire podium et revenir avec quelque chose de très positif et que c'est pas fait, il va falloir qu'on trouve les outils, les solutions pour qu'il y arrive.
Il y a deux autres Français, Willem Belossian, qui a beaucoup d'expérience, alors pas de grand titre, pas de podium dans des finales mondiales. Et il y a Jusco Omaté, surtout, on a envie de dire en tant que Français, parce que 12,99, il n'y en a que 3 des Français qui ont fait moins de 13. Là, il y a toi, 12,97, j'ai un doute sur le centième, 12,97, et Pascal Martineau-Lagarde, recordman de France, 12,95. Donc, c'est pas rien ce qu'il a fait juste cette année.
Non, c'est pas rien. Nous, on le savait qu'il était capable de courir moins de 13. Willem aussi, Sacha aussi, il y a quelques années, je crois que c'était Albi, ils ont fait les 2,01 et 0,05. Juste son record, il était 13,09, c'était 13,09 il y a plus de 2 ans. Donc on savait que c'était des gens qui étaient capables de courir moins de 13 et encore une fois ils montrent que la discipline elle progresse, il y a beaucoup plus de densité, donc on n'est pas forcément surpris. Maintenant, comme je le disais précédemment, l'idée c'est qu'ils puissent rééditer ce qu'il a fait. Il a fait deux fois 13-10 au championnat de France, puis il a sorti un 12,99. S'il peut le faire là et qu'il peut aller chercher la médaille d'or, il faut le faire, il ne faut pas se gêner. Il faut vraiment pas se gêner, il faut y aller. Et puis les trois ils sont dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, c'est juste qui est le leader, tu vois, on va dire, du staff français. Et il faut aller la chercher. Les mecs, de toute façon, comme ils se sont dit, il faut qu'ils se donnent rendez-vous en finale parce qu'ils ne peuvent pas se rencontrer avant. C'est 3 demi-finales. Donc, ils essaient de s'envoyer les meilleures ondes pour aller titiller les quinries, on va dire. Et puis, il y a le japonais qui est chez lui.
Il y a Cordel Tidj, donc numéro 1 mondial pour l'instant. Rachidement attaqué, ouais. 12,92. C'est... qui devant toi.
Après il y a le grand qui veut pas lâcher il veut pas lâcher le truc. Après l'avantage qu'ils ont c'est que Toi, comme je disais, surtout par rapport à Juste qui a le troisième temps, il n'y a pas de. Si Tinch, quand même, il a commencé à marquer sa marque, mais son expérience, ça commence à porter ses fruits aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a fait sa première sélection il y a 2023, je crois. Il fait une bonne. Il avait fait 12,97, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et il fait. Il se fait sortir en demi-finale. Je crois que c'est Sacha qui prend sa place, donc je me souviens bien. C'était les trois mêmes Français qui étaient là à Budapest, pardon. Et puis là, cette année, c'est l'année où il est beaucoup mieux. Il gagne des courses, mais il est en train de créer aussi son palmarès. C'est peut-être le moment de l'arrêter. Hein, les gars, les Français, c'est peut-être le moment de l'arrêter. Après, pour moi, grand favori de la gestion des championnats, ça reste Grant quand même. Mais Tinch, il a une marge. Juste, il a un coup à jouer. Les Français aussi. Donc voilà, Murataki, il est chez lui. Peut-être que ça va le galvaniser et puis il va nous sortir un chrono, waouh, tu vois, ou pas.
Ça va pas forcément très très vite. D'ailleurs, on a vu au JO de Paris, voilà, même un Grant Holloway, à un moment donné, il est à 12,81 et puis entre guillemets, parfois, ça suffit de gagner en 13. Même Ansel Parchment à son époque, il gagnait pas forcément en 12,80.
C'est un truc qu'on avait remarqué, surtout moi, que j'avais échangé un peu avec Willem et surtout avec Sacha, c'est. Il est de moins en moins saignant sur à partir de la 6e et 7e. Après, il commence à se faire vieux, on va dire. Il a trop enchaîné de courses et il est rattrapable, il est battable. Cette année, il a gagné aucune course et c'est peut-être le moment où il faut commencer à poser ses briques. Donc voilà, personne n'est imbattable. C'est aux Français de la jouer comme ils peuvent. Faut passer le premier tour, faut pas commencer à trop se voir en finale. Faut passer le premier tour, c'est quand même ça va être un moment assez difficile parce que c'est un championnat tout simplement. Il y a eu des surprises, on a vu sur d'autres disciplines.
Hein. Bah non, on l'a vu avec Azin Abd sur 1500, numéro 1 mondial, bam, il sort en série en terminant 7e alors que c'était le top 6 qui passait.
Voilà, et tu te dis quand même, il a cette expérience de championnat, il a fait les Jeux, il a fait les Championnats du monde à Budapest, il a fait des meetings, il a gagné. Ah bah ça. Ça marche pour tout le monde, donc il faut passer le premier tour et puis après il y a le deuxième tour, c'est la demi-finale, c'est la course la plus difficile qu'ils vont avoir pour moi. Et puis derrière, après tout est ouvert. Donc j'espère vraiment que ça va jouer des bons tours pour les Français.
Bon, ça serait énorme. Hein. La dernière médaille en S, c'est Pascal Martineau Lagarde en 2019 à Doha, là, quand en plus il y a une chute et il y a deux médailles de bronze. Et Pascal donc en bronze. On croise les doigts sur le 110 mètres. Et peut-être une dernière question aussi, parce qu'on se posait la question aussi sur 100 mètres. Les semelles en carbone, ça aide à beaucoup de performances, les nouvelles pointes, les nouvelles chaussures. Finalement, sur les sprints, on ne voit pas les chronos s'envoler par rapport à il y a une dizaine d'années. Comment tu l'expliques ça?
Sur les sprints courts, je dirais. Ah, peut-être que. Sur les records, on en parle un peu, mais je dirais que ça a augmenté.
Il n'y
a pas eu d'explosion, mais pour moi, il y a une explosion au niveau de la densité quand même. Tu as beaucoup plus de femmes qui font moins de 11, il y en a beaucoup plus, ou qui se rapprochent des 10,90, 11,0, il y en a beaucoup plus. Sur 100 mètres, il y a beaucoup plus de personnes qui font moins de 10. Donc il y a quand même un impact positif là-dessus, mais on s'attend à des chronos beaucoup plus proches de 9,58. Après, 58, c'était un fou aussi. Hein.
Eh oui, non, mais
c'était un taré.
Après, donc, c'est ce que Bolt, avec ses pointes-là, il aurait fait encore mieux.
Moi, je suis certain qu'il aurait fait encore mieux. Après, la mécanique, elle a changé. La biomécanique, elle a changé au niveau de toutes les courses. Les courses à économie, bah, tu te rends compte qu'ils ont un gain de fou. Donc, ils apprennent à utiliser cette chaussure qui leur fait... récupérer de l'énergie et aller vers l'avant. Sur les épreuves techniques, on voit un peu moins comme le 100 mètres technique est court, comme le 100 mètres et 110 mètres haies, mais il y a quand même de la densité. Les mecs en 13,40, 13,30, ils sont plus facilement capables de faire 13,20 maintenant. Donc il y a quand même une densité qui a été avancée, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, bah, t'as que 3 mètres qui ont fait moins de 13. Peut-être qu'il y en aura plus aujourd'hui. Hein. J'irais, ça fait très vieux, mais à mon époque, il y en avait beaucoup plus. Tu vois, mais il y avait quand même un fossé entre. Les têtes de série, peut-être, allez, t'avais 4-5 personnes tout en haut, et en bas, t'avais un trou à 13-15, 13-20, et les podiums se jouaient à 13-15, 13-20. Là, faut aller chercher les zéros maintenant. Donc la densité, elle a augmenté. Sur 100 mètres, ils sont combien à faire moins de 10 là? On a vu les séries, il y en avait pas mal. Hein.
Ok, mais ça va jamais très haut, puisque le PB c'est 9,87 en série. Alors après, on verra, parce que là, on parle juste au moment avant les demi-finales et la finale. Donc...
Il faudrait qu'il y ait une rareté comme Bolt pour voir ce que ça donne avec des qualités comme il a, avec des pointes comme ils ont. On verra sans doute des 9,60, 9, voilà, 9,70, on crie même plus maintenant. Alors qu'à l'époque, on était comme des fous. Après, lui, il a, c'est une exception, Bolt, hein, faut pas oublier. Hein.
Non, mais tout à l'heure, on a fait des débats sur RMC pendant la semaine, ouais. On parlait de Frankie Fredericks. Il reste dans la mémoire de tout le monde, c'est 9,86.
Ouais.
Donc finalement, aujourd'hui, un 9,79, on n'est pas content, mais t'as raison, c'est ça. C'est énorme.
Ouais, t'avais des Bailey, il fait 9,84, on est là, waouh, waouh, waouh. Et puis finalement, on commence à banaliser ces performances-là, parce qu'on sait qu'il y a cet apport-là, la piste, la pointe, mais des gens moins de 9,90, il y en a de plus en plus. Hein.
Bon, bah écoute, on va se quitter là-dessus. Là, j'ai juste, est-ce que tu auras le temps de profiter un peu à Tokyo après ou tu repars direct?
Non, je pense que dès que j'ai fini ma mission, je rentre et puis il faut que j'anticipe pour la saison prochaine. Donc il faut que je me repose et derrière, je commence à anticiper la préparation de la salle et surtout des championnats d'Europe à Birmingham. Là, c'est un point de passage aussi important, même si on dit que c'est les Europes, il faut commencer à... Ouais, commencer à avoir... Ouais. Continuer à la remplir, continuer à faire descendre les chronos. Préparer aussi Pékin. C'est Pékin, t'es au courant
ouais,
ou pas?
Ouais, j'ai appris ça.
Moi aussi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps.
On
donc,
va se remettre dans le même décalage horaire.
Voilà, décalage horaire, refaire la même chose, peut-être même stage préparatoire, ainsi de suite, pour que Los Angeles, dans l'autre sens, on puisse. Voilà quoi. Donc voilà.
Merci Ladji.
Bah, à bientôt, écoutez-nous encore. Hein.
Mais voilà, Ladji Doucouré, donc entraîneur de Sacha Zoya, même s'il n'a pas beaucoup d'espoir, vous l'aurez compris. Pour le franco-australien qui se plaint du tendon d'Achille, il a eu un grade 1 également à l'ischio, donc ce sera très compliqué. À l'heure où je vous parle d'ailleurs, on n'est même pas sûr à 100% qu'il prenne le départ des demi-finales, mais le tirage au sort lui a fait hériter de la demi la plus abordable entre guillemets, donc connaissant le bonhomme, il va avoir envie de courir. Et bon, pour finir sur Ladji Doucouré, grand sourire, il connaît tout le monde, il se prend des tapes dans le dos de partout. Voilà, c'est une légende de l'athlétisme. Il fait partie, comme Jimmy Gressier désormais, des 9 champions du monde en individuel de l'athlé. Et d'ailleurs, on le chambre un petit peu parce qu'il a dansé un petit peu. Il a aussi fait un petit peu de Star Academy. Et World Athletics lui demande parfois de danser un petit peu. Et il le fait avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve très vite sur RMC Running. Ciao.
RMC Running.